Donc, je vais commencer sans micro, une petite préliminaire. En effet, les seules illustrations connues de Renoir paraissent dans l'édition illustrée par Marcon Palomarion en 1878. Et mon propos va reproduire certaines images déjà vues ce matin.
Je ne m'en excuse pas parce que puisqu'on fait plusieurs lectures d'un texte, on peut aussi faire plusieurs lectures de ces illustrations. À bien des égards, l'édition illustrée de l'Assommoir, publiée en 1878 par Marcon Flammarion, doit être considérée comme essentielle lorsqu'on examine les rapports de l'œuvre de Zola à l'image. C'est premièrement la toute première édition illustrée d'une œuvre de Zola. On a fait allusion au projet Manet qui ne s'est pas réalisé, tout le monde le regrette. Et elle ouvre une longue série publiée chez les mêmes éditeurs. De 1878 à 1893 paraissent les premières éditions illustrées de l'Assommoir, 78, Le Ventre de Paris, 79, Thérèse Raquin, 81, Nana, 82, Paubouille, 83, La Terre, 89, La Faute de l'Abbé Mouret, 90, Le Rêve, 92, La Débâcle, 93. L'abondance de ces publications et leur rapprochement dans le temps montrent, ne serait-ce que par les dates, leur succès. Les éditions illustrées suivent de fort près les parutions originales. Pour l'Assommoir, il y a une différence d'à peine un an. Et sauf pour Le Rêve, elles se présentent toutes sous le même format. Grand in octavo, parution en 50 à 60 livraisons de 4 feuillets chacune, avec une, rarement deux illustrations par livraison. L'illustration sert de page de couverture à chaque livraison, donc elle anticipe sur sa place véritable dans le texte. Les propos de M. Quéret ce matin parlaient de ce problème, ou plutôt de cet aspect du problème. Il s'agit là d'éditions à très grand tirage pour l'époque, 15 000 pour le premier en général, qui ont toutes pour but d'intensifier la diffusion de l'œuvre auprès d'un large public qui peut acheter la livraison en vente directe ou en souscription chez tous les libraires et peut également se les procurer par correspondance chez l'éditeur. Il s'agit là, du point de vue purement commercial, d'un moyen efficace de donner un troisième souffle au lancement d'une œuvre parue d'abord en feuilleton s'il n'y a pas auparavant une originale, puis en volume. Une lettre de Zola à Marpon et Flammarion indique que dès septembre 1978, il s'était vendu 17 000 exemplaires des livraisons de l'édition illustrée de l'Assommoir. Il est clair donc que pour Zola lui-même, cette première édition illustrée compte beaucoup et qu'il compte sur ses parutions pour la diffusion de son œuvre. En fait foi, une lettre aussi à un journaliste qui devait publier un compte-rendu de l'édition illustrée dans le Petit Journal. Il s'agit de Henri Escoffier. Pour rendre compte de la première édition, il n'a eu que la première livraison entre les mains. Zola écrit « Cher monsieur, j'ai vu monsieur » et il écrit à Marpon Flammarion « J'ai vu monsieur Escoffier, l'affaire est arrangée. » Il s'agit évidemment de faire de la publicité pour la publication. « Seulement, il aurait voulu avoir plusieurs livraisons entre les mains pour faire son article. » Portez-lui vous-même celles qui sont tirées et dites-lui que vous seriez content que l'article parût tout de suite, bien à vous. Et puis une note en bas de la page, la mise en vente ne me paraît pas assez large. J'ai vu beaucoup de petits libraires aujourd'hui qui n'avaient pas la première livraison. Il aurait fallu, je crois, inonder la place de cette première livraison. L'édition illustrée de 78 marque surtout le départ d'une esthétique picturale de l'œuvre de Zola. La genèse de toute une tradition de l'image illustrative, et en particulier en ce qui concerne les types physiques. L'article d'Escoffier dans le Petit Journal souligne plusieurs aspects qui sont assez paradoxaux pour nous aujourd'hui. D'abord, il voit la publication comme une déclaration de principe, un véritable manifeste artistique, je cite, et il signale ensuite le caractère nouveau de l'entreprise et y voit une occasion inespérée pour la jeune école dite des impressionnistes de montrer ce qu'elle était et ce qu'elle savait faire. Jugement étonnant pour nous, comme le soulignent d'ailleurs les éditeurs de la correspondance de Zola, si l'on considère que parmi les noms que nous reconnaissons chez les illustrateurs de l'édition, seul celui de Renoir fait vraiment figure d'impressionniste et que Goethe, dont la contribution se limite à deux gravures, n'est liée au mouvement qu'en tant qu'ami de jeunesse de Renoir. Il figure, pour l'anecdote, dans deux tableaux importants de Renard de cette époque, La balançoire et Le moulin de la galette. Nous reviendrons là-dessus. Il figure comme modèle dans ces tableaux. Certes, Escoffier se reprend et ajoute « Les impressionnistes ont leur part dans l'illustration de l'Assommoir, et c'était justice, mais ils n'absorbent pas tout. » Il est vrai que, comme la lettre de Zola l'indique, il n'a eu qu'une livraison entre les mains, celle qui s'ouvre justement par la gravure de Goethe. Alors, je vous montrerai la page de titre ici, avec la figure de Gervaise, telle que l'a vue André Gilles. Simplement, vous voyez la présentation de couverture de l'édition Ne Varietur, c'est-à-dire la réunion de tous les feuillets qui paraissaient chez les libraires. Voici donc la page de la première livraison, cette illustration de Goethe qui déjà marque une très grande différence d'esthétique par rapport à celle d'André Gilles. L'illustration porte la légende « La descente des ouvriers ». C'est d'ailleurs, à mon avis, je ferai des jugements esthétiques, je vous prie de les discuter ensuite, l'une des plus puissantes illustrations du livre. Loin de l'impressionnisme, mais est-ce qu'il y a, avant 1880, une esthétique graphique propre à l'impressionnisme ? La composition de Goethe est unique, justement parce qu'elle est ouverte. En particulier les effets de la correspondance entre les nuages et leurs reflets sur les pavés de la rue, et surtout la variété des plans et le groupement des figures donne à l'image une profondeur qu'on ne retrouve dans aucune des autres contributions, sauf celle de Renoir. Donc, d'André Gilles à Goethe, on aura déjà noté une disparité de style dans l'illustration qui pose au lecteur-spectateur un intéressant problème. Le nombre des illustrateurs, 22 pour l'Assommoir, instaure-t-il une anarchie dans la lecture ? Organise-t-il un chaos, Patrick Brady, dû en particulier au manque de constance dans l'esthétique ou dans l'articulation des types physiques même attribués aux personnages, voire aux périodes dans lesquelles l'action s'inscrit selon l'image ? Second Empire ou Troisième République, 1858 ou 1877 ? Ou bien au contraire, ce manque de stratégie de l'image, dû sans doute à l'opportunisme des éditeurs, ouvre-t-il le texte et la lecture ? Instaure-t-il une liberté d'interprétation souvent confisquée par la lecture d'un texte dans une édition illustrée ? Notons en passant que cette tradition fait partie de celle des romans populaires illustrés romantiques et qu'elle a été reprise à l'époque moderne par des éditeurs comme Gallimard, par exemple, pour ses éditions illustrées des romans du XXe siècle dans les années 40 et 50. Et que l'illustration collaborative rappelle par bien des côtés la tradition opératique du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dans laquelle chaque acte d'un opéra, sinon chaque scène, a son propre décorateur choisi pour sa spécialité : intérieur, jardin, milieu urbain, paysage. Au cours des années, le nombre des illustrateurs diminuera dans la série des éditions Marpont-Flammarion. Nana, illustrée 4 ans après l'Assommoir, présente une plus grande harmonie de style, bien que des styles très contrastés. Et La débâcle, dernier volume paru dans la série en 1893, est illustrée par le seul Georges Janiot. Mais revenons à l'Assommoir. Sur les 70 illustrations pleines pages, la part du lion revient à André Gilles avec 17 illustrations. Son style familier de caricaturiste, il vient de publier en 1877 sa célèbre série « Nos députés », le prédispose à l'illustration des types et des scènes à faire. Alors. Dans la lignée de Gavarnier-Daumier, il dépasse aisément la mièvrerie de certaines caricatures de style romantique, comme celle-ci représentant Madame Bosch, ou une autre représentant Monsieur Bosch, gravée par Oberländer pour la même édition. Et il établit efficacement et fidèlement les types imposés par Zola, comme l'entier, ici, ou des épisodes cocasses, comme la bataille de Gervaise et Virginie, ou celle de la fête de Gervaise, poisson des couplois. Mais il s'élève nettement au-dessus de la caricature avec la figure jupitérienne de Gouget, si puissamment évoqué par Zola qu'il s'impose également comme type, et ceci est rare, c'est-à-dire la consistance de deux types d'une image à l'autre, dans la scène où Frédéric Régamet montre je cite la légende, gougeait et bec salé forgeant devant Gervaise. L'effet saisissant de clair-obscur ici est dû à la technique même de la gravure, due à Gilliot. Là où la plupart des gravures sont sur bois, il s'agit clairement ici de la nouvelle technique de gravure sur zinc qui porte aujourd'hui encore le nom de gilotage. Le nom illustre de Clairin revient 6 fois dans l'édition, attaché aux scènes les plus dramatiques. Clairin ne dépasse jamais la tradition de l'illustration populaire comme en font foi celle-ci illustrant Bijard assommant sa femme et le délirium très mince de Coupeau que vous voyez maintenant. Il demeure cependant bien supérieur à Alfred Garnier, dont la composition « L'accident de Coupeau » est une des plus maladroites de l'ouvrage, annonçant les excès futurs de la presse populaire ou même contemporain, style le supplément illustré du Petit Journal, par exemple. Pour parler comme bec salé, ça se casse la gueule dans tous les sens du mot. Ce sensationnalisme se retrouve dans la mort de Lali, de Georges Bélanger, qui est capable du pire et du meilleur dans la même édition, comme nous le verrons. Clairin parvient à sauver par la hardiesse de la composition et un expressionnisme inattendu les deux scènes intitulées « Nana regardant sa grand-mère morte » et « Mise en bière ». Mais techniquement, avec la même superposition des plans, les lettres inversées des mots « vin » et « absinthe » s'inscrivant d'une manière toute moderne sur l'aventure de l'estaminet du père Colombe, derrière laquelle on distingue les ouvriers prêts à entrer. Une relecture des premières pages du chapitre 2 montrerait que cette image constitue une synthèse efficace et fidèle du texte, en réunissant simultanément dans une relation espace-temps, Zola précise bien, il est 11h30, les aspects divers des personnages ou même des comparses et le décor intérieur et extérieur, tel que Gervaise elle-même peut les apercevoir. Je cite, « Gervaise, tout en répondant avec complaisance, regardait par les vitres, entre les bocaux de fruits à l'eau de vie, le mouvement de la rue où l'heure du déjeuner mettait un écrasement de foule extraordinaire. » Il n'est pas jusqu'à la présence du chat explorant le panier de Gervaise qui ne suggère qu'une tradition illustrative se fonde ici, qui va triompher dans l'affiche de Steinlen, éditée en 1900 pour une reprise de la pièce de Busnach et Gastineau, et qui demeure, à mon sens, le chef-d'œuvre de l'image inspirée par Zola, comme l'est aussi cette vision de Gervaise, illustration de Steinlen pour une valse de Bosque. S'il était besoin d'établir d'autres parallèles entre les illustrations de l'édition 1878 et les grandes tendances stylistiques de l'époque, on pourrait citer les rapports de la gravure un peu sèche, mais parfaite d'exactitude et de détail de Henri Lefort, La maison de la goutte d'or, avec les photographies de l'époque. Pour ce qui est de la mise en place du sujet, les compositions marquantes sont celles représentant la promenade de la noce au Louvre de Gervex. M. Bagulet confirme mon attribution parce que la signature est très peu lisible. Et ça devient très récalcitrant. Et la composition de Georges Bélanger, la promenade de la noce au Louvre. La communion de Nana. Georges Bélanger, la communion de Nana, Gervex, la promenade de la noce au Louvre. Dans l'une comme dans l'autre, mis à part toute considération de technique et de graphisme, la différenciation des plans, la mise en œuvre des types, les contrastes subtils, des valeurs et la référence à des costumes nettement contemporains autorisent une référence au développement récent de la peinture. Plus spécifiquement, c'est la technique du blocage partiel des figures au premier plan, ce que les critiques anglo-saxons nomment « cropping », qui semble autoriser une référence à l'impressionnisme de la fin des années 70. Je montre sur l'image, simplement pour clarifier.
Ici et ici.
Davantage encore, que la première composition que nous avons déjà vue de Gueneut, sa deuxième composition des deux qu'il a contribué, l'Atelier des fleuristes, autorise une telle référence. Cette gravure, probablement réalisée par l'artiste lui-même, à la différence de la majorité des autres, est d'un style, d'une composition et d'un graphisme absolument unique dans l'ouvrage. On pense irrésistiblement à Vuillard, non seulement en raison du sujet, mais surtout en raison de la technique, de l'importance donnée à la texture même des objets pris dans les contrastes de la lumière. Le blocage des figures au premier plan, l'hypnotique motif du quadrillage de la robe en contraste avec la grisaille des silhouettes et du mur, et le contrepoint des striures, des jalousies que le texte de Zola indique comme baissées, la composition en frise, les objets pesant dans leur imprécision, tout signale des préoccupations esthétiques largement différentes de celles des autres collaborateurs de l'édition et plus proches de celles des impressionnistes. On se prend à vouloir en savoir davantage sur l'œuvre de Gueneut, élève de Pils, célèbre pour ses toiles évoquant les aspects de la vie parisienne, en particulier un « appel des balayeurs près du Nouvel Opéra » de 1877. Il meurt à Auvers en 1894, âgé de 40 ans. Un beau sujet de recherche, je crois. Pardon. Plus qu'un sujet, Gueneut a saisi une atmosphère et la légende porte en sous-titre cette citation du chapitre 11, celui de la déchéance de Nana. On était là, les unes sur les autres, on se pourrissait ensemble. Le texte de Zola poursuit juste l'histoire des paniers de pommes quand il y a des pommes gâtées. Autant qu'à Vuillard, on peut penser, surtout pour la composition, au Renoir de l'après-midi des enfants à Vargemont, qui a été peint pendant l'été 1884, soit 6 ans après l'apparition de l'illustration de Gueneut. Mais, on peut avoir une mise au point. C'est lorsqu'on en vient aux trois compositions de Renoir pour l'Assommoir que l'on saisit pleinement les différences d'esthétique qui les démarquent des autres illustrations. Les différences sont attribuables certainement au choix d'épisodes libres de tout dramatisme, à une technique d'exécution qui isole ces gravures de Renoir de toutes les autres. L'attribution à Renoir est problématique, mais elle n'est répertoriée dans aucun des catalogues raisonnés pleinement. C'est-à-dire que Renoir n'est censé avoir fait de la gravure qu'à partir de 1890. Il ne s'agit pas de gravure originale, évidemment, puisqu'il y a eu un graveur à l'appui, mais quand même, on ne voit pas pourquoi les critiques d'art négligent ce qui figure dans les livres populaires. Cette attribution est pourtant pleinement justifiée pour la dernière de cette gravure, celle que je montre ici, parue en tête de la livraison 47, avec la signature visible de Renoir dans le coin bas à droite, bien que sans attribution au graveur. Cette gravure porte la légende « Les filles d'ouvriers se promènent sur le boulevard extérieur » et une citation du chapitre 11 auquel elle se rattache comme l'atelier de Gueneut. Souvent reproduite, cette aquarelle préparatoire qui figure dans la collection de Percy Moore Turner à Londres porte en légende une citation du texte de la main de Zola. Toutes les six, se tenant par le bras, occupant la largeur des chaussées, s'en allaient vêtues de clair avec des rubans noués autour de leurs cheveux nus. Le paragraphe suivant donne un complément d'information sur la situation et le mouvement de la scène. Nana prenait le milieu avec sa robe rose qui s'allumait dans le soleil. Elle donnait le bras à Pauline, dont la robe de fleurs jaunes sur un fond blanc flambait aussi, piquée de petites flammes. Comme elles étaient les plus grosses, toutes les deux, les plus femmes et les plus effrontées, elles menaient la bande, elles se rengorgeaient sous les regards et les compliments. Les autres, les gamines, faisaient des queues à droite et à gauche en tâchant de s'enfler pour être prises au sérieux. La gravure n'apparaît pas dans les ouvrages consacrés à l'œuvre graphique de Renoir, mais un dessin à l'encre et au crayon qui se trouve dans une collection privée en Pennsylvanie, semble être la version précédant immédiatement la gravure, sinon le calque. À propos de l'aquarelle, il faut noter que l'absence de référence dans les catalogues de l'œuvre de Renoir à notre édition de l'Assommoir, sa méconnaissance, a occasionné bien des déboires aux critiques et aux historiens d'art. Ainsi, John Rewald, dans son ouvrage « Renoir's Drawing » de 1946, émet l'hypothèse suivante. Le dessin de Renoir, bien qu'il capture admirablement l'atmosphère d'un boulevard parisien, a pu paraître trop charmant et léger pour le texte robuste de Zola. Et c'est ce qui explique le fait que le projet ne fut jamais réalisé. En l'absence de signature et d'études préparatoires, c'est du point de vue du style et de la technique du dessin que nous pouvons attribuer au même Renoir la gravure sous-titrée « Le père Bru piétinait dans la neige pour se réchauffer » qui parut en tête de la livraison 25 et se rattache à la fin du chapitre 6. Elle se prit surtout d'amitié, je cite, pour un ancien ouvrier peintre, un vieillard de 70 ans, qui habitait dans la maison une soupente où il crevait de faim et de froid. Il avait perdu ses trois fils en Crimée et il vivait au petit bonheur depuis 2 ans qu'il ne pouvait plus tenir un pinceau. Dès que Gervaise apercevait le père Bru, piétinant dans la neige pour se réchauffer, elle l'appelait, elle lui ménageait une place près du poêle. La troisième et dernière illustration attribuable à Renoir porte les initiales AR et la signature du graveur H. Paillard Sculpsit. Elle porte en légende une citation exacte du chapitre 8 qu'elle illustre. Lantier et Gervaise passèrent une très agréable soirée au café-concert. Malgré sa brièveté, on connaît l'importance de l'épisode. Une prolepse nous avertit qu'il s'agit là d'un calcul de Lantier pour reprendre Gervaise en l'absence de Coupeau. Une analepse révèle que la chanteuse de genre, mademoiselle Amanda, s'est mise nue et l'ensemble précède la scène de séduction de Gervaise par Lantier devant Coupeau ivre-mort et Nana qui observe la scène par un carreau. Renoir n'ayant jamais vraiment illustré d'autres œuvres littéraires, on peut se poser la question des raisons qui l'ont poussé à accepter une telle commande. En 1877, il expose à la troisième exposition des impressionnistes plusieurs grandes toiles, dont le bal du Moulin de la Galette, que Zola salue comme possédant une intensité de vie extraordinaire. Il cesse dès cette année d'exposer avec le groupe impressionniste et remporte son premier succès au salon de 1879 avec sa toile « Madame Charpentier et ses enfants » qui date de l'année précédente. Zola salue cette défection comme parfaitement raisonnable dans son salon 1880. Quant aux liens biographiques, ils sont surtout marqués par des jalons qui appartiennent à l'histoire de la peinture et du mouvement impressionniste. L'atelier par Basile et un atelier au Batignolles de Fantin-Latour, où figurent ensemble Zola et Renoir, s'ajoutent leur amitié commune pour Cézanne et leur rapport avec la famille de l'éditeur Charpentier. Dans ces conditions et en l'absence de documents de première main, comment admettre comme véridique ce jugement douteux et tardif sur Zola que Vollard attribue dans ses souvenirs à Renoir ? J'ai toujours détesté ce qu'il écrivait, mais quel beau livre il aurait pu faire, comme document humain, puisque c'est ainsi qu'il vendait sa marchandise. Si dans son œuvre, il s'était seulement donné la peine de raconter ce qu'il avait vu et entendu dans nos réunions et à l'atelier. Mais au fond, Zola s'en fichait bien de représenter ses amis tels qu'ils étaient, c'est-à-dire à leur avantage. Évidemment, ces paroles suivent de loin la publication de l'œuvre, et ceci explique peut-être cela. Pour ce qui est de l'œuvre graphique de Renoir, on reconnaît également, généralement, comme sa première gravure originale, la Vénus de 1890, publiée en frontispice à Page de Mallarmé. Cette gravure, comme vous le remarquez, n'offre aucune ressemblance avec les compositions de l'Assommoir. C'est une eau forte, d'ailleurs. Mais, en 1878, paraît en frontispice à l'ouvrage de Duret, « Les peintres impressionnistes », une gravure de Renoir d'après Lise, une toile qu'il a exécutée 10 ans plus tôt. La parenté dans la technique de la gravure et du dessin est évidente cette fois avec les gravures de l'édition illustrée de l'Assommoir. On pourrait mettre au point, s'il vous plaît. C'est le système des hachures principalement que je voulais montrer, il n'est pas très perceptible ici. Voilà. Donc, si vous remarquez les hachures et le système de la gravure elle-même, ces deux gravures me semblent très voisines et donc confirment l'attribution. C'est une technique absolument unique par rapport aux autres illustrations de l'édition de 78. D'autre part, certaines préoccupations concernant l'organisation de l'espace pictural et des figures apparaissent clairement dans les tableaux contemporains des illustrations de l'Assommoir et culminent dans le bal au Moulin de la Galette. Ainsi, le groupement des figures féminines dans après le concert, qui date de 1817, qui figure dans la Barnes Foundation Collections, qui explique la reproduction en noir, parce que M. Barnes refusait qu'on photographie en couleur ses tableaux, et ça continue, où dans ce tableau, on remarque le blocage d'une figure au premier plan qui ajoute une profondeur de champ à l'activité principale du centre du tableau, comme dans le jardin au Moulin de la Galette, qui date de 1875, et surtout dans la balançoire de 1876, qui fut présentée, comme j'ai déjà dit, à la troisième exposition impressionniste. John Newton a justement insisté sur la parenté de cette toile avec les pages célèbres d'une page d'amour et le fait que Zola semble y puiser son inspiration. Rappelons que le modèle vu de face en canotier est Norbert Guenette. Zola tire presque aussitôt de cette toile un dessin à graver qui figure dans le numéro du 21 avril 1877 de l'impressionniste publié par son ami Georges Rivière pendant cette troisième exposition impressionniste. Il est évident que le type du personnage central, celui des modèles Jeanne ou Margot qui apparaît dans de nombreuses toiles de l'époque, et le costume féminin lui-même sont les mêmes dans la balançoire que dans Nana et les filles sur le boulevard. Durant cette même période, on observe une évolution parallèle vis-à-vis de l'évocation du paysage urbain chez Renoir. Le pont neuf de 1872 insiste sur l'aspect anecdotique, isolant figures et repères topographiques avec des effets quelque peu mécaniques. Déjà, les boulevards de 1875 intègrent ces éléments d'une manière beaucoup plus convaincante, en organisant une progression dans l'organisation des plans, depuis les figures du premier plan présentées dans l'ombre au même niveau que l'arbre, le réverbère et la colonne Maurice, en passant par la zone lumineuse dans laquelle s'inscrit le mouvement vers l'avant de l'équipage, jusqu'au flou de l'arrière-plan où se devine l'agitation de la circulation. La place Clichy de 1880, qui figure dans la collection de Fitzwilliams à Cambridge, marque le point culminant de cette recherche, avec l'étagement sur trois plans des figures, aboutissant au même effet de flou à l'arrière-plan. Dans ce sens, l'illustration de l'Assommoir, montrant Nana et ses compagnes sur les grands boulevards, s'inscrit dans la même recherche. Je donnais ici l'exemple de l'arrière-plan flou du tableau de la place Clichy de 80. L'aquarelle montre un effort d'inscrire les figures dans l'espace urbain, mais aussi de révéler cet espace à travers elles. Zola dit bien « la rue était à elle ». Dans l'aquarelle, comme dans la gravure, la réalité des boulevards n'existe que derrière et en fonction des figures qui la révèlent et l'incarnent en même temps. Le même effet se retrouve dans la gravure représentant Gervaise et le père Bru. Et les effets ici sont amplifiés par les contrastes d'ombre et de lumière de cette scène nocturne, la seule à ma connaissance de l'œuvre de Renoir. Quant à la scène du café-concert, en dehors de certaines références aux scènes de music-hall de Degas, elle procède d'une évolution similaire à l'étude des plans, apparente dans la petite toile de 1877 intitulée « Au café » du Rijksmuseum d'Otterlo, et surtout dans les différentes versions du Moulin de la Galette, depuis l'esquisse au pastel du musée de Belgrade que vous voyez ici, en passant par l'étude du musée de Copenhague, pour arriver à la version finale du musée d'Orsay, où l'on retrouve en particulier à droite, en gibus, Norbert Guenette, le barbu. Ainsi, les illustrations de l'Assommoir s'inscrivent comme une étape importante de la recherche d'un nouvel espace pictural chez Renoir, autant que comme un prolongement du texte zolien, dont il souligne non l'aspect anecdotique ou dramatique, mais bien plutôt la nature esthétique, l'ordonnance spatiale en particulier. Il faudrait ainsi parler des effets du texte zolien sur l'œuvre de Renoir, par un effet de miroir peut-être déformant, qui fait que le mouvement Moulin de la Galette, par exemple, est aussi une illustration du texte zolien et que, par extension, certes, il fait partie de ce texte. Merci.
Ben, merci de nous avoir... Oui,
non. Jean-François, non, tu ne veux pas venir là?
Là, pardon, oui. Je n'avais pas vu qu'il avait disparu. D'avoir enrichi à la fois notre connaissance du fonctionnement de l'édition illustrée, d'une part, de l'illustration de Zola, d'autre part, et puis de Renoir, à ajouter, puisque ce sont des choses qui étaient assez pas connues du tout, enfin, pour beaucoup d'entre nous. Bon, nous retrouverons toutes ces questions tout à l'heure, puisque tout le monde respecte à peu près l'horaire, ça va, on aura le temps d'en parler.
Exactement, est-ce que tu me permettrais de dire...
Oui, je t'en prie, alors vas-y.
Il y a à partir de 18h, 18h15, mettons, il y a le vernissage de l'exposition Zola Photographe qui a lieu à la mairie du 2e arrondissement, qui se trouve presque à côté d'ici. Vous y êtes tous cordialement invités. Bon, c'est très simple pour y aller. Vous passez, en sortant d'ici, vous passez dans l'autre galerie, dans la galerie Vivienne. Oui, c'est ça, dans la galerie Vivienne. Vous tournez deux fois à droite et après, dans la galerie Vivienne, vous tournez à gauche, vous tombez rue de la Banque et là, presque pratiquement en face de la mairie. Voilà.
Bien, il revenait à M. Jean Vatelet, pardon. Merci. Il revenait naturellement de terminer cette première journée, puisque M. Vatelet, comme tout le monde le sait, travaille dans cette maison même, de l'autre côté, au département des périodiques, et il était particulièrement qualifié, bien sûr, pour nous parler de l'iconographie zolienne dans les journaux illustrés.